Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire 89.4 et de Bibliomanie, qui reçoit l'historienne américaine Victoria de Grazia de passage en France pour présenter son imposant mais fort passionnant ouvrage « Le parfait fasciste, amour, pouvoir et morale dans l'Italie de Mussolini » paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme dans une excellente traduction de Anne-Marie de Grazia, connue comme romancière sous son nom, et celui d'Anne-Marie Hubert. À la technique, Xavier Lecomte. Mille merci. Le parfait fasciste utilise le mariage d'Attilio Teruzzi comme un tremplin pour explorer les mœurs et la moralité sous l'ordre fasciste. En étudiant le projet de Mussolini qui concevait son mouvement selon les termes d'une révolution spirituelle et éthique, d'une politique du cœur, en opposition avec ce qu'il dénonçait comme la stérile politique du cerveau de la société libérale. L'ouvrage permet encore d'examiner comment Mussolini instrumentalisa ce nouvel ordre moral qui se faisait fort de célébrer une hyper-masculinité tonique dans le cadre de la race, sur laquelle il pouvait consolider son pouvoir et révéler à quel point, en fait, ce nouvel ordre moral s'articulait sur la nécessité de la guerre extérieure et intérieure. Il considère enfin la nature de l'homme nouveau fasciste et expose l'échec final de l'ambition mussolinienne. Victoria de Grazia, le parfait fasciste, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, traduit de l'américain, puisqu'il a été écrit en 2020. Il est traduit par Victoria de Grazia, avec une excellente traduction, qui tient peut-être aussi au fait que Victoria de Grazia le signale en fin de livre, que Anne-Marie de Grazia est connue pour être romancière.
Oui.
En lisant cet extrait, Victoria de Grazia, je vous remercie d'abord de bien vouloir nous accorder cet entretien dans la Maison des sciences de l'homme qui nous accueille pour l'enregistrer. Et dont nous la remercions.
Bon, je suis très contente, ravie d'avoir cette occasion pour parler avec vous et votre auditeur. Et bon, on commence.
Voilà, mais justement, en citant cet extrait, j'ai l'impression d'avoir commis une faute, puisque cet extrait commence en citant le nom de l'homme dont nous allons nous occuper tout au long de cet entretien, mais si je regarde le titre du livre, je ne vois pas son nom. Si je regarde le titre du livre dans l'édition américaine, dans l'édition allemande, je ne vois pas son nom. D'autre part, dans l'édition française, le parfait fasciste, amour, pouvoir et morale dans l'Italie de Mussolini. Mm-hmm. C'est bien indiqué aussi, je crois, dans le titre de l'édition américaine. Mm-hmm. Mais il me semble que dans le titre de l'édition allemande, l'allusion à Mussolini et au fascisme italien n'existe pas.
Non, vous avez raison, c'est juste. J'avais pensé à un certain moment d'évoquer Roth, la marche de Terruzzi, c'est-à-dire de ce petit homme, ce petit soldat, la crise existentielle du fasciste au début de devenir fasciste. Et ça, c'est un peu, c'est-à-dire l'histoire qui part du couple, de ce bizarre couple, le mariage de ce petit homme, c'est-à-dire c'était major dans la guerre, qui à son retour se trouve sans rien, c'est-à-dire l'Italie avec tous ses crises, les ouvriers, le patriotisme qui n'existe pas, et il est dans son uniforme sans futur, il dit. Et il trouve Mussolini. Mais ça, c'est simplement le début, parce que quand on fait la révolution, il aussi, il doit changer, il doit devenir, parce que c'est un type comme ça, il est toujours parfait, il veut faire la carrière militaire, il veut faire la carrière même dans le parti fasciste, alors il doit se normaliser, parce que c'est une révolution, mais c'est même une révolution bourgeoise, c'est-à-dire de modernisation de la bourgeoisie, de l'élite italienne, pour faire front au communisme, au désordre des ouvriers, et même les désordres, on pourrait dire, sexuels de genre. Alors, pour avancer, il doit s'épouser. Et même Mussolini est d'accord, parce que un type comme ça, violent, sans hiérarchie, c'est clair, sans le poids de maternel, il peut vraiment déborder. Et ça, c'est un grand problème alors de la révolution fasciste, de normaliser, d'envoyer les hommes chez soi pour se reproduire, pour commencer à créer les nouveaux les nouvelles générations. Et bon, c'est pour ça que Terruzzi, il est toujours présent, un couple, au début un couple, parce qu'il existe quand il s'épouse. Et mais pour l'appeler Terruzzi, la biographie, non, ça n'existe pas. Il n'est pas vraiment, on pourrait dire, digne de la biographie, et on peut même parler plus tard de les questions méthodologiques. Qu'est-ce que c'est une biographie dans un régime despotique? Alors, on est subordonné à Mussolini et tous les régimes fascistes.
Alors, il ne s'agit pas de la biographie proprement dite,
non,
de ce parfait, fasciste.
Non.
Et moi, j'avais l'intention, là, vous avez déjà bien avancé, vous êtes dans le prologue déjà, puisque le prologue donne déjà des indications sur le sens même du livre. L'extrait que j'ai lu, il vient de ce prologue. Mais on pourrait faire comme s'il n'y avait pas de quatrième de couverture, se contenter du titre, et alors le livre se présente d'une manière un petit peu curieuse, puisque on l'ouvre, on ne tombe pas sur un texte, ça ne commence pas par le texte.
Ouais.
Il n'y a pas de référence à Terruzzi nommément.
Mm-hmm.
Il y a des cartes,
mm-hmm.
d'abord, me semble-t-il.
Mm-hmm.
C'est les cartes de toutes les guerres, mm-hmm. de toutes les guerres mm-hmm. qu'il a faites.
Mm-hmm.
Il y a une photo.
Mm-hmm.
Il y a des indications comme ça. Il y a une liste de noms de personnages.
les plus importants. Il y a une liste d'abréviations qui sont données dans les notes. Et rien qu'avec ces éléments-là, qui ne font pas partie du texte, qui sont avant le texte, le lecteur qui n'aurait pas lu la quatrième de couverture pourrait déjà être intrigué, puisque la Thérusie, on regarde les guerres, où il les a faites. Il y a une photo où il est avec des caniches et puis on s'aperçoit que cette photo, elle fait partie des archives de quelqu'un. On s'aperçoit que ce quelqu'un, qui est une femme, porte d'abord un nom avec un prénom et son nom de famille. Et après, la même femme avec le nom Thérusy. Liliana Venman Walter Thérusy. Et donc, on se doute effectivement qu'il y a un mariage. Et le premier chapitre, en fait, de votre livre, après le prologue, commence par ce mariage, comme si, en fait, on connaissait déjà Thérusy, alors qu'on connaît simplement comme cela, il n'a pas été parlé avant. D'autre part, si on regarde toujours le titre, on s'en tient à cela, on voit le parfait fasciste.
Ça serait Mussolini, peut-être.
Ça serait quand on parle du parfait fasciste, on peut supposer aussi que c'est n'importe qui, n'importe quand, qui a pu dire d'un autre, « Ah, c'est le parfait fasciste. C'est le fasciste tout craché. Alors lui, c'est un vrai fasciste. » Selon les conceptions que la personne qui traiterait l'autre de cette façon se ferait lui-même de ce qu'est un fasciste.
Vous disiez des choses très très intéressantes. Alors, bon, j'avais un intérêt à comprendre le pouvoir masculin, c'est-à-dire ça m'intéressait depuis beaucoup d'années comme historien, peut-être toujours des pouvoirs. Alors, et je pensais, si je comprends ça, je peux vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être fasciste dans le monde contemporain. Bon, étudier pour comprendre, pour percer son âme. Bon, c'est difficile, j'avais pensé autrefois, à Napoléon, il m'intéressait beaucoup avec ses rapports personnels. J'avais pensé à Berlusconi, personnage intéressant, bien aimé par ses relations, par les femmes, par ses femmes. Bon, intéressant personnage. Boulanger, avec ses amis, avec son cours. Est-ce qu'il était épousé et comment? C'est difficile parce que comment trouver, pour un historien, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est difficile de trouver le cas exemplaire. Alors j'ai eu la fortune de trouver la femme, c'est-à-dire une famille de New York, une famille juive, m'a téléphoné, c'est-à-dire... Ils m'ont contacté et la femme, historien amateur, elle a dit qu'elle avait les sacs avec la correspondance, les papiers de sa cousine, bon, qui était diva d'opéra, qu'elle avait étudié en Italie et qu'elle s'était épousée avec un grand fasciste barbu. Et alors, il se demandait, bourgeoisie new-yorkaise, cultivée, progressiste, mais pourquoi la cousine, très intelligente, très ambitieuse, s'y est épousée avec ce type, et après, ça ne marchait pas. Peut-être c'était le faute de ses parents, c'est-à-dire de... Et moi, j'ai dit, histoire intéressante. Et j'ai commencé à fouiller dans ces sacs type bon marché. C'était une archive mais sans ordre, c'était plein de lettres, de photos de Mussolini, de photos de ce type, de photos d'elle comme chanteuse, grande, photos même de maestro, c'est-à-dire le Tullio Serafine, de l'ambassadeur des États-Unis. Et donc, surtout, j'ai trouvé trois types de documentation qui m'y ont vraiment impressionné. D'abord, j'ai trouvé beaucoup de photos de la guerre des Italiens contre les Bédouins en Libye. Bon, ça c'est intéressant. Beaucoup, beaucoup de photographies de la campagne de guerre 1929, mais bon, ça commence vraiment en 1926, en tout cas. J'avais à Benghazi et même dans les déserts. J'ai trouvé aussi des lettres, une lettre très très longue, plusieurs copies, je l'ai lue, et c'était la lettre de Terruzzi à cette femme pour dire que le mariage est fini, tout m'a traduit. Bon, intéressant, 8 pages. Et après, j'ai trouvé des volumes de l'annulement de l'Église. Et ce sont des documents secrets. Trouver toute l'histoire d'un mariage en process. Ça, c'est un process, c'est une espèce d'inquisition faite par l'Église pour faire l'annulement. 4 volumes. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça n'existe pas. C'est seulement la famille et l'Inquisition qui connaissent ces documents. Alors, j'ai dit, bon, ça, c'est intéressant. Et puis, je me suis demandé, mais ce type, je ne le connais pas. Et j'étudie le fascisme depuis 30 ans et ce type n'existe pas. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Oh mon Dieu, alors c'était pas chercher la femme, mais chercher l'homme. Ça c'est très important, chercher l'homme. Et ça change tout, chercher l'homme. Il faudrait chercher l'homme. Et alors à travers cette femme très très intelligente, forte, qui a collectionné toute l'archive, on arrive à ce type. Alors je commence... Rien des Felici dans toutes les histoires de Nantes. Et j'ai trouvé, c'était le chef des miliciens, des chemises noires. Et après, il a été, il a été ministre de l'Afrique orientale, c'est-à-dire il était ministre à partir de 1939 jusqu'à 1943. Alors j'ai trouvé que c'était un type assez, c'est-à-dire connu avec beaucoup de relations, et il connaissait tout, et c'est un type un peu exemplaire, nul, qui a fait cette grande marche, toujours présente, toujours à changer, toujours très lié, loyal à Mussolini. Alors c'est ça un peu le découvreur. Alors, des documentations vraiment pas bon parce qu'il a laissé très peu, beaucoup de photographies. Il aimait ce fait, elle était photogénique, très très important. Mais à la fin, il faudrait parler de la. Pour le comprendre, j'ai dit que ce n'est pas une biographie. Une biographie, c'est quelque chose de très spécial, psychologique. Il faut avoir beaucoup d'informations, même pour savoir. Bon, alors j'ai dit. Ça, c'est une histoire sociale de l'individu. C'est dans son contexte. Et là, c'est pour ça qu'il y a toutes les cartes, tout ça, tous ces dessins, pour le fixer, ce type. Et quand on commence à le fixer, parce qu'il était militaire au début, et après, il a toujours voulu être militaire, avec des ambitions entre le militaire et le parti fasciste. Alors ça, c'est, il est vraiment fasciste pour ça, parce que militaire, fasciste, c'est tout à fait différent. Alors, j'ai commencé à voir, mais l'Italie était toujours fasciste, était toujours en guerre. On pense que c'est seulement avec Hitler ou avec les colonies 35, mais c'est pas vrai. Tujutsi, elle était toujours à faire la guerre. Et avec cette carte initiale, je veux dire à vous, c'est pas l'histoire sociale des mœurs, des choses délicates. C'est une histoire même de grande violence. Alors, entre les deux, c'est très important. Le couple, le mariage, la maison, les enfants, ça n'existe pas, mais les enfants pour eux, d'être chez soi, et la guerre, la violence du régime fasciste.
La violence du régime fasciste, mais en même temps, les relations entre cet homme et cette femme, le guerrier, le militaire, le fasciste, et celle qui devait être une diva, mais a abandonné sa carrière, c'est aussi une histoire. Je veux dire, leur mariage, c'est la conclusion d'une véritable histoire d'amour, en fait.
Oui.
Et pour cela, Victoria de Grazia, il y a des critiques, notamment celui qui a fait la critique de votre livre dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui dit que vous êtes une conteuse, en fait. Il dit de vous que vous êtes une historische Erzählerin. Et donc, c'est pour ça que je pense que votre livre, c'est un livre d'historienne, vous êtes historienne, mais c'est, il touche aussi à la littérature pure, me semble-t-il, dans l'art de raconter cette histoire. C'est de l'histoire historique, mais c'est aussi une histoire, une histoire sociale, mais aussi une histoire entre des gens.
Ce qui est très
important pour vous, c'est précisément que c'est la relation entre la politique et l'intime.
L'intime, oui, c'est ça.
En même temps, il y a quelque chose de frappant dans votre livre, indépendamment de ce que j'ai dit auparavant, qui est indépendant du texte lui-même, c'est toutes les citations que vous faites en exergue des chapitres qui sont tirés d'œuvres littéraires, d'études historiques, éventuellement, d'opéra. Et j'ai rarement vu dans un livre des citations qui sont aussi pertinentes, aussi significatives par rapport au chapitre qu'elles annoncent. Et on peut prendre comme exemple la première, le soldat. Viens, chante la joie immense de vivre, d'être fort, d'être jeune, de mordre les fruits de la terre, de tes dents saines, blanches, voraces, et de poser d'impudentes et avides mains sur les douces choses en vie, de bander l'arc à chaque proie nouvelle visée par le désir.
C'est
D'Annunzio.
Oui, Gabriel D'Annunzio, qui l'a connu et qui l'a aimé parce que c'était un soldat un peu d'Annuncienne, héroïque, avec son amour propre, avec l'idée de la gloire, de la patrie, qui aimait bien aussi les arts, la sensibilité, la civilisation, parce qu'il est aussi milanais, et Milan, c'est une idée de modernité un peu parisienne, avec le luxe peut-être beaucoup plus moderne de Paris pendant les années 20-30. Alors c'est un type qui représente, c'est-à-dire les autres, les hommes, surtout le bois. Ah, ça, c'est un type qui est un peu plasmé. Bon, mais vous avez commencé à dire, bon, c'est pas l'histoire sociale. Non, quand j'ai compris la biographie, c'est-à-dire de Liliana, c'est la première fois que je parle de Liliana, qui s'épuise avec Tiruzzi, Liliana Weinmann, qui est née dans la Galicie à la fin juive, famille juive, qui la famille qui va fait l'immigration à New York, qui travaille, père comme dans l'entreprise du textile pour faire sa fille, l'unique fille, une américaine très importante. Ça, c'est l'idéal. La musique, très importante pour eux, pour la culture juive. L'opéra, grande culture. C'est un opéra, c'est ça, simplement d'être diva. Elle connaissait ses langues et il allait étudier. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, ça c'est comme un roman américain. Ça c'est Edith Wharton, la femme pure américaine qui va en Europe. Elle trouve le noir, c'est-à-dire le noir, blanc, noir, pur, impur, corrompu de l'Europe. Oh, ça c'est Henry James qui a écrit beaucoup des femmes qui vont être perdues en Italie, contractent les fièvres à Rome et tout ça, le trait d'une femme. Et j'ai dit, bon, ça c'est très intéressant, ça doit être un roman. Et ils ont vécu aussi la vie du couple un peu, comme un roman avec les fleurs, avec tout ça, grand mariage, vraiment une idée de pouvoir. Et bon, alors le roman, c'est très important, soit pour lui, soit pour elle.
Lorsque la jeune diva américaine Liliana Weinmann nom de scène Liliana Lorma, abandonne sa prometteuse carrière pour épouser l'ancien militaire Attilio Teruzzi, dont l'ascension parmi les hiérarques du régime fasciste ne fait aucun doute. La première du Turandot de Puccini, dirigée par Toscanini, vient de faire sensation. Le couple a des raisons particulières d'apprécier le célèbre air de Calaf. Le prince inconnu ne s'exclame-t-il pas « Je veux l'amour, je veux le triomphe ». Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire et de Bibliomanie, qui reçoit l'historienne américaine Victoria de Grazia pour le parfait fasciste, amour, pouvoir et morale dans l'Italie de Mussolini.
Il y a quelque chose qui m'intrigue, mais qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous parlez souvent de la double nature du fascisme, mm-hmm. les contradictions de conscience, mais aussi, alors je ne sais pas s'il y a une homologie, mais le caractère double de ce qu'elle dit.
Oui, on pourrait même parler d'une idée que le fascisme met ensemble l'ordre capitaliste, le marchand, les rations de civilisation, on peut dire, et l'ordre militaire. Et l'ordre militaire, pas seulement de l'armée, l'armée monarchique européenne, avec sous ses ordres la hiérarchie, mais même pour l'Italie, c'est très important, l'ordre des milices, parce que les milices fascistes sont les premiers. Il n'y a pas de garde nationale en Italie. Et alors, le fascisme, on pourrait dire, met ensemble ces deux types d'ordre, c'est-à-dire l'ordre de la violence et l'ordre des règlements capitaliste organisé dans les syndicats corporatifs, dans les corporations. Alors, c'est un type de régime tout à fait nouveau pour ça, de se mettre ensemble. Et Teruzzi, c'est un type intéressant parce qu'il vient de la petite bourgeoisie qui vend du vin. Et qu'il a choix, il a choisi la carrière militaire parce qu'il a compris qu'avec le petit boutique de vin, c'est rien, ça n'était rien. Mais comme soldat, au moins, il aurait été devenu sergent après 12 ans et après sinécure. C'est-à-dire, oui, la gloire peut 12 ans, et après à la retraite, il pouvait devenir peut-être, pas l'ingénieur, mais homme d'ordre dans la société. Alors c'est très intéressant. Alors ça, ce type devient, c'est un élément important, c'est-à-dire de trait d'union entre les deux faces, on pourrait dire, du fascisme, entre la civilisation, la vie civile, et la vie, la violence, la coercion. Et il a, c'est pour ça peut-être, parce qu'il y a beaucoup de types comme ça qui va faire sa carrière.
Il fait la Première Guerre mondiale.
Ouais.
Et à la fin, il s'est battu comme il le fallait. En quelque sorte, mais il est déçu en fait.
Oui.
Il est déçu.
Parce
et c'est à ce moment-là que quelqu'un de ses amis lui présente Mussolini.
Oui.
Lequel Mussolini, à ce moment-là, n'est pas grand-chose en fait.
Non, Mussolini, il était un révolutionnaire à Milan. Il était, il faut dire, un grand journaliste. Et c'est très important. Et c'est un homme aussi violent, mais pas tout à fait courageux. Alors, quand il voit Terauzzi tout droit, avec toutes ses médailles, majeur, alors c'est le premier majeur qui vient chez lui. Il y a beaucoup de capitaines.
Majeur, c'est ça.
Majeur, dans la hiérarchie de la... C'est majeur, oui. Ça, il s'appelle majeur.
Oui, majeur.
Ouais, majeur, ouais. Pas colonel, hein. Il n'y a pas de colonel. Alors, c'est un moment assez important parce qu'il y a des questions. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les fascistes?
Oui, mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que Terauzzi, le soldat, pas n'importe quel soldat non plus,
oui,
et à son ami, quand il sort de son entrevue avec Mussolini, il lui dit, c'est quand même formidable, devant ce bonhomme en costume, je me suis senti comme un truffion.
Oui, ouais, ouais. Donc c'est très important qu'il voit le commandement, il voit la hiérarchie. Terauzzi, toujours, il a cherché qui commande. Et il est dans la guerre, il a fait comme ça, il a été découvert par un grand général. Et ça a été important pour moi. Quand j'ai découvert ça, qu'il était intendant de le général Varini, qui Vaccari, Varini, et c'est un autre. Vaccari, j'ai dit, bon, ça c'est un grand général. Vraiment, des générales.
Des niveaux
français.
Repéré très vite. Ouais. Mais là, si je me souviens bien, Mussolini, lui, se voit pour la première fois en septembre 1920, je crois.
Oui, ouais, ben, ouais.
Deux ans seulement après. Mm-hmm. Me semble-t-il.
Ouais, deux ans. À deux ans, on fait la marche sur Rome. Ouais. Décembre. Et avant ça, c'est très important. Pendant le printemps de 1921, excusez-moi, les dates sont très importantes pour trouver qu'il faisait. Quand on a commencé à faire le fascisme, ça c'est très important pour la carrière, mais aussi pour comprendre mieux qu'est-ce que le coup d'État fasciste. Alors Terauzzi, il aime la politique aussi, ça c'est intéressant. Il aime la politique, mais il n'a jamais eu de la pratique. C'est-à-dire, il était dans l'armée, c'était pas possible même voter. Et alors, il est là, toujours présent dans l'élection, et surtout comme élément des fascistes pour... faire de violence aux socialistes. Alors, il commence à compter comme homme qui connaît toute la police parce qu'il a été soldat, parce qu'il vient de Milan, et parce que c'est un homme d'ordre, et parce qu'il sait comment organiser des... comment s'appelle ça ces raids...
Ces coups de force.
Oui. Et ça c'est très important que les fascistes sont militarisés et qu'ils ont besoin eux d'ordre, parce que souvent ils étaient des criminels, des délinquants, des éléments très très mal organisés, rebelles à tout ordre. Alors Terauzzi est important, et aussi une autre chose, le major se reporte, c'est le majeur pour leur expérience, c'est organiser toutes les colonnes pour faire la stratégie militaire. Alors Terauzzi, il devient important aussi pour ça, tactiquement, pas vraiment la stratégie. Mais Mussolini, il n'a rien de militaire, c'est-à-dire fait deux ans, peut-être une année pendant la Première Guerre mondiale. Mais c'est très important pour les fascistes d'avoir la connaissance de l'organisation militaire pour faire leurs représailles contre les ouvriers. Et ça a été très important. En 1922, je vois, maintenant comme historien, je vois pour la première fois qu'il en a vraiment organisé militairement pour faire le coup d'État. On a conquis tout presque tous les mairies du Nord, manu à main, si, avec des coups d'État, avant la marche sur Rome. Et ça, c'est Tiruzzi a été très important dans tous ces petites batailles contre les ouvriers, mais même pour occuper les mairies. C'était un très important. Milan, Turin, Bologne, ouais.
Donc il y a quelque chose d'important à retenir, me semble-t-il aussi, c'est que Tiruzzi apportant ses capacités d'ordre militaire à Mussolini, en fait, il se met pratiquement hors la loi.
Ouais. Ouais.
Parce qu'il a changé, en quelque sorte, c'est ce que vous dites, de fidélité. Autant il était fidèle auparavant à l'armée, c'est l'armée du pays et du roi. Autant il devient fidèle à Mussolini, on verra qu'il l'est jusqu'au bout, alors que parfois il pourrait avoir le sujet à se plaindre, parce qu'il pourrait penser, bien qu'il ait eu de grands postes, qu'il n'ait pas été toujours récompensé à sa juste valeur, et que la reconnaissance de ses bienfaits ou de son action a été subie Dancy, en quelque sorte.
Oui, ça c'est très important, même pour expliquer la force du fascisme, c'est-à-dire qu'il y a un ordre avec ses hiérarchies de l'Italie libérale. Et Mussolini disait, bon, ça c'est pas la liberté, ça c'est l'élite, rancune, tout ça, ça c'est le passé. Et il faut un nouveau ordre pour l'État. Alors, contre la monarchie, le régime bourgeoise, il faudra une nouvelle moralité, un nouveau type de pouvoir, ça c'est très important, un nouveau élite. Et à un certain moment, beaucoup de monde a commencé à dire, bon, Lord Vieux, Lord Nouvelle, il faut décider. Et même s'il y a eu beaucoup d'équivoques, mais à la fin, on dit, l'homme nouveau, c'est Mussolini, et il y aura aussi un nouveau ordre. L'Italie disait Mussolini, l'Italie libérale a fait la nation, bien, et nous allons faire l'État. Et ça, c'est un peu l'idée. Alors, Tiruzzi commence, le militarisme Tiruzzi qui se transfère de Ura à Mussolini. Ça, c'est un signal très, très important du changement entre 1920 et 1922, le moment du marche sur Rome, qu'il a été très présent là-dedans.
Est-ce à partir de ce moment-là, vers 1922, que commence à s'apercevoir de l'existence d'une certaine Liliana Weinmann?
Oui. Oui, alors la Liliana j'ai toutes ces lettres, jeune, grande, plus de Tiruzzi, elle se présente à Milan, dans la galerie. C'est pas exactement la Champs-Élysées, mais pour le centre-ville, bon, Palais Royal, et Tiruzzi, il doit décider, parce qu'il y a eu la révolution fasciste, mais après, bon, il n'y a pas de révolution. C'est toujours la bourgeoisie, c'est le vieux ordre. Il a toujours des problèmes pour ce pays. La mode, parce qu'il est très vaniteux. Et bon, alors, il commence à voir ce type, cette femme, dans le centre-ville. Et à un certain moment, il y a le coup de foudre pour lui. Parce qu'elle est loin de ces cercles. C'est pas la grande bourgeoisie qui aurait dit ouf, un fasciste pauvre, rien. Ou même la petite bourgeoise de Milan, ses cousines. Mais ça aussi, ça n'existe pas parce qu'il n'a rien, il n'a pas un appartement. C'est difficile, il n'a pas la possibilité de s'épuiser, même s'il y a 40 ans. Ça, c'est le problème des soldats aussi, de s'épouser bien parce qu'il faut. Mais maintenant, il n'est pas épousé et tous sont riches. Tous ses compagnes deviennent riches, ils vont à Rome. Et alors, en ce moment, il commence à chercher et elle n'a pas d'intérêt au début. Et après, il y aura au début un coup de foudre, après il fait un peu l'assaut à elle comme il a fait à Rome aussi, la marche sur Liliana. Et ça c'est assez intéressant aussi, ça dure 2-3 ans pour la convaincre. C'est une espèce de conversion même d'elle-même. Et elle fait les choix aussi pour le fascisme. Et ça, c'est intéressant, voir l'américaine juive qui en pensait toujours liée à la démocratie américaine, qui aimait beaucoup son père était voté pour les démocrates, comme beaucoup de juifs aux États-Unis pendant les années 20. Beaucoup étaient antifascistes aussi, mais elle est sûre de comprendre bien le pouvoir en Italie, parce qu'elle a l'idée de elle est arriviste aussi, mais tout à fait des canaux tout à fait différents.
Oui, alors elle est entre guillemets arriviste en ce qui concerne son art, puisque c'est une cantatrice quand même. Et elle met sa vocation au-dessus de tout.
Très, ouais.
Elle, me semble-t-il, a du dédain pour les cantatrices qui abandonnent relativement tout leur carrière pour s'embourgeoiser, ce qu'elle fera, qu'elle sera jamais. Et puis, très peu de temps après, alors qu'elle a connu le grand succès là, avec la représentation de Guillaume Tell, je ne sais plus quelle année, où elle a une grande réputation en fait. Et Teruzzi la courtise alors qu'elle a finalement eu cette grande réputation, alors que lui n'est toujours pas grand-chose, mais seulement un an après, il est promu. Et donc, ils sont presque dans des positions égales, ou du moins, Liliana voit aussi en lui quelqu'un d'important dans le fascisme qui est en train de prendre le pouvoir.
Ouais. Du point de vue méthodologique, alors, l'autre, c'est moi, commence à dire, ça c'est leur roman. Ça, c'est l'histoire sociale, parce que le raisonnement envoie entre, dans les deux, une espèce d'idéalisme, enthousiasme et opportunisme. Il y a toujours ensemble. Alors qu'ils puissent penser, les deux, qu'ils sont complémentaires, les âmes jumeaux, ils disaient. Ça, c'est peut-être le fascisme, c'est-à-dire la révolution, on peut penser, bon, avoir ce grand pouvoir de l'amour, d'être une personne très, très morale, même l'opportunisme d'elle et de lui, parce qu'elle pensait aussi, bon, j'ai toujours ma vocation et peut-être. Après 2 ans, je peux commencer à repartir et maintenant ça serait bien parce que on est lié au pouvoir. Mais c'est surtout une idée de couple du pouvoir. C'est très moderne, très très important. Que l'homme a besoin de sa femme pour la carrière. C'est très important, surtout dans le fascisme parce que. L'homosexualité, bon, ça c'est difficile, pas impossible. Et pour la femme, les femmes étaient assez importantes. Il faudrait que quelqu'un face une histoire collective des femmes, des fascistes, ou des compagnons des fascistes. Ça, c'est très, très important. Et il y en avait d'autres juifs, des juifs italiens qui ont été liés à ces hommes forts du régime.
Alors, on arrive, en fait, au moment où votre livre commence. C'est-à-dire à ce mariage fasciste. On va en parler tout de suite, mais je rappelle le livre dont nous parlons, donc Le Parfait Fasciste, Amour, Pouvoir et Morale dans l'Italie de Mussolini, de Victoria de Grazia, et qui est publié à les éditions de la Maison des Sciences de l'Homme.
Notre première illustration musicale nous a valu l'air de Calaf, du Turandot de Puccini, certes apprécié de notre parfait fasciste Attilio Teruzzi, qui a toutefois dû bien plus souvent entendre et même chanter ceci d'un tout autre genre.
Salve, popolo d'eroi, salve, patria immortale, son rinati figli tuoi, con la fe nell'ideale, il valor dei tuoi guerrieri, la virtù dei pionieri, la vision della rivieri, oggi brilla in tutti i cuori. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella festa, il tuo canto squilla e va.
Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella festa, il tuo canto squilla e va.
Dell'Italia nei confini son rifatti gli italiani, li ha rifatti Mussolini, per la guerra di domani, per la gioia del lavoro, per la pace per la loro, per la gogna di coloro che la patria rinnega. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella fredda, il tuo canto squilla e va.
Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella fredda, il tuo canto.
Poeti, gli artigiani, i signori e i contadini, con orgoglio italiani, e giuran fede a Mussolini. Non de povero quartiere, che non batti le bandiere, e non pieghi le bandiere del fascismo redentore. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella fredda, il tuo canto squilla e va.
Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella fredda.
Eh oui, il s'agit bien de Giovinezza, l'hymne fasciste. Et vous êtes pourtant sur Radio Libertaire. C'est que Bibliomanie s'entretient avec l'historienne américaine Victoria de Grazia à propos de son livre Le Parfait Fasciste, Amour, Pouvoir et Morale dans l'Italie de Mussolini. récemment paru dans une traduction d'Anne-Marie de Grazia, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme.
Victoria de Grazia, donc, nous continuons notre conversation au sujet de ce couple, pour l'instant, une diva et un fasciste. Donc le mariage, vous dites, et c'est même un journal américain qui le dit, c'est un mariage fasciste. Et il est fasciste pour plusieurs raisons. Et d'abord, c'est peut-être le plus important, c'est que Tiruzzi demande à Mussolini d'approuver ce mariage. Il y a en quelque sorte la bénédiction du fascisme sur ce mariage, qui est un mariage, fastueux, on dirait aujourd'hui médiatique, même temps. Donc c'est la première fois, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, où celui qui deviendra un hiérarque du régime demande une autorisation de Mussolini, ou du moins son approbation. Donc c'est un mariage fasciste. À ce moment-là, Tiruzzi est un personnage important. Et très peu de temps après, il va être envoyé en Libye, dans la province de la Cyrénaïque, à Benghazi. Et il va se passer là 2 ou 3 ans, je ne sais pas bien. Donc c'est du colonialisme pur et dur. Mais on va dire que Tiruzzi est le patron là dans cette région finalement. Et on va dire qu'il va faire relativement du bon travail. Et que Liliana là va se trouver en même temps très bien, sauf que. Au bout d'un certain temps, va trouver que il y a quelques désagréments. Il y a la mère de Tiruzzi qui arrive là, et ça ne se passe pas très bien. Et puis elle a la nostalgie du pays un peu, et donc elle part aux États-Unis. Tiruzzi veut la rejoindre. Et là, c'est le drame. Elle l'attend, Ils s'écrivent beaucoup, c'est toujours le grand amour. Et au bout d'un certain temps, vous dites que c'est peut-être le 150e échange qu'ils ont. Il y a un télégramme qui arrive, donc vous avez fait allusion tout au début. Je ne viens pas, tu m'as trompé, il n'est plus question de se revoir. Et elle ne comprend pas, évidemment. Et elle repart aux États-Unis alors qu'elle lui dit de ne pas. Elle repart, je veux dire, en Italie alors qu'elle lui dit de ne pas venir. Elle cherche à le revoir. Et là, c'est extrêmement compliqué la suite. On ne va pas s'attarder sur les détails. Mais Tiruzzi veut annuler le mariage et elle veut à tout prix, au contraire, qu'il ne soit pas dissous. Et l'important, c'est qu'il y a l'interaction de l'Église, puisque depuis les accords de la Trente que Mussolini a fait avec l'Église, l'Église régule les mariages et c'est extrêmement difficile, sinon impossible, de divorcer. La seule solution pour une séparation, c'est de prouver que le mariage était nul au moment où il a été signé. Et il s'ensuit des tas de procès avec des répercussions. Et les reproches de Tiruzzi sont complètement infondés, mais il ne le sait pas, en plus, puisque il se base sur des lettres qu'elle a écrites à, on dira, c'est pas son impresario, mais presque à une certaine époque, dont les termes peuvent paraître comme ça douteux, mais qui sont en fait familiers, et un point c'est tout. Et donc l'action de Tiruzzi en fait repose sur un faux qui va être qui, 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 qui va être encore une fois, comment dire, aggravée par les aveux, les faux aveux de ce, du prétendument coupable. Et en plus, il va s'apercevoir que tout l'entourage, en fait, ne met pas trop Liliana et que tout le monde lui dit du mal d'elle, ce qui le conforte dans son rejet.
Non, ça m'a frappé beaucoup. Maintenant, vous l'avez expliqué très bien, mais je dois dire que ça, c'était le moment que j'ai dit, ah, c'est pas le roman qui... donc un peu pensé, mais l'opéra ou Shakespeare, c'est du moment des Othello qui on a la criminalité trahison de la femme. C'est pas possible, c'est une espèce de complot. Difficile en tout temps, maintenant à comprendre, c'est-à-dire parce que c'est vraiment un changement de vie entre le 1926 et 1929, 30 et après, année 32, quand il commence le processus d'annulement. Et c'est-à-dire qu'elle était juive, américaine, talentueuse, riche. Et ça marchait très très bien en 1925-26. 1930, il y a eu la chute économique, la crise économique. Alors, on commençait à être anti-juive. L'Amérique, c'est une espèce de parasite sur l'Europe avec la crise économique. Qu'elle était étrangère. Alors, c'est une espèce de changement de vie. Et il est devenu aussi le gouverneur de Benghazi, de Cyrénique, très important pour lui. C'était loin, il aimait ça. Il est devenu chef de la milice. Et ça a été pour lui très, très dur. C'est-à-dire, il était, le chef était le commandant, c'était Mussolini. Et c'est alors la première fois qu'il a Mussolini dans sa face. Et avec tous ces changements, et d'abord le salon, le mariage, ça devait être central, important. Et alors Liliana a été très important pour ça. Mais à partir de 1930, toute la politique vient d'être organisée autour des organisations de masse masculines. Et alors Teruzzi, elle est devenu pas seulement inutile, mais aussi avec des grands problèmes, parce qu'elle devient juive, c'est-à-dire avec toutes ses qualités, même que l'idée qu'elle a cherché de faire mal au goyim, l'idée qu'elle a voulu, qu'elle était même malévolente. C'est très important pour Me Too. Beaucoup de femmes ont dit, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas laissé l'Italie pour rentrer aux États-Unis? Bon, aux États-Unis, les divorces, c'est rien. Et, mais c'est très important de comprendre qu'elle veut, elle a la volonté d'être présente, d'être pouvoir, d'avoir raison. Et surtout, la question juive, d'aller contre l'Église. Quelqu'un dit, mais pourquoi l'Église doit renforcer ce complot de ces hommes autour de Teruzzi? Moi, je ne suis pas... Je suis juive. Alors, c'est un pouvoir horrible, terrible, que ces prêtres peuvent décider si mon mariage... Alors, c'était contre Teruzzi, c'était contre Mussolini qui avait voulu que... Teruzzi puisse épouser encore, et ça paraît même toute l'Église catholique, même le pape qui était contre elle, et qui alors elle devait faire la guerre.
Et donc, effectivement, elle est complètement étonnée qu'il y a un moment où, effectivement, Thérèse la rejette. Mm-hmm. Enfin, dans les arguments de son rejet, de demander la dissolution, c'est que d'obtenir la dissolution du tribunal ecclésiastique, c'est par antisémitisme. Et pur et simple. Mais lui-même, de son côté, pendant ce temps-là, il a connu une autre femme.
Oui, et à un certain moment, il connaît les autres. Il y a beaucoup de femmes, vraiment,
oui, il a une espèce de... juive avec laquelle il a un enfant, une fille. Mm-hmm. Et à un certain moment donné, pour les mêmes raisons, parce que, les Allemands ont pris le pouvoir, on est loin là, cette fois, les Allemands ont pris le pouvoir, enfin, ont débarqué en Italie, etc. Le Lutz a été prisonnier, libéré, sur les événements historiques internationaux, on va dire. Et de la même façon, il est amené à faire... envoyer sa maîtresse, la mère de sa fille, dont
Paris en exil. Et ça, c'est-à-dire ce petit type, il utilise l'État pour ses problèmes personnels. Il a cherché de faire hésier les parents de Liliana. Et d'acheter les avocats, de faire de tout, en utilisant le pouvoir de Mussolini, de ses amis très riches, même de corrompre l'Église. Et c'est pas tout à fait facile parce que l'Église se base sur le droit romain. Et alors l'Inquisition a ses règles, hein, c'est-à-dire le process, et surtout ce sont des prêtres de Milan et l'archevêque, le cardinal Schuster, c'était un type extraordinaire, c'est-à-dire assez indépendant, et surtout les juristes ecclésiastiques étaient c'était contre le régime fasciste dans le sens qu'il y a des règles, il y a un ordre ecclésiastique, et bon, il y a beaucoup de coopération, je ne veux pas insister sur ça, mais il y a l'Église, le processus, c'est le processus dans l'Église, permettez-moi. Et ça, c'est très important, que tu utilises toujours l'État, bon, pour dans ses affaires privées, et... Ça a été assez important pour moi de comprendre pourquoi une autre juive, qu'est-ce qu'il y a, des problèmes psychiques, c'est-à-dire... je crois non, qui cherchait toujours des femmes très formées, intelligentes, formidables comme sa mère. Et la seconde, elle a été fille de l'attaché culturel de la Roumanie en Égypte. Alors, elle avait aussi cet amour pour la Méditerranée. Alors, elle cherchait toujours des femmes qui n'étaient pas dans l'Italie. Même parce qu'il n'avait pas la capacité de s'épouser. Alors, il se trouve avec la femme juive qui ne peut pas divorcer et la maîtresse juive sans papier, qui n'est pas épousée. Et avec la fille qu'il adore complètement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au second moment, il y a ces liens avec les nazis, et alors Mussolini doit devenir plus rigide avec ses hommes. Non, il faut s'épouser, il ne faut pas avoir des amants juifs et les filles illégitimes. Et alors ça devient vraiment un problème. 42, il commence à 40 ans, 42, surtout avec la solution finale. qu'il doit faire disparaître cette maîtresse, faire exiler comme femme de moralité dubieuse.
Ça c'était
une catégorie nouvelle de la politique fasciste. C'est ça, il a... Alors, Terruzzi, on commence à voir, il a des grands pour être le fasciste parfait, il a des grands problèmes. Parce que monde d'ordre et désordre, tous les deux, ensemble. Il est toujours comme ça. S'il était commerçant, non, pas de problème. Comme fasciste, grand problème.
L'un des chants les plus connus des partisans italiens succède comme il se doit à l'hymne fasciste entendu précédemment.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore.
Vous êtes à l'écoute de Bibliomanie sur Radio Libertaire 89.4, suite de l'entretien avec l'historienne américaine Victoria de Grazia au sujet de son livre « Le parfait fasciste, amour, pouvoir et morale dans l'Italie de Mussolini » publié aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Italo Terruzzi a été emporté dans la chute de Mussolini, mais n'est pas tué. Seulement condamné à plusieurs décennies de prison, assez vite réduite, puisqu'il meurt en 1950, le 1er avril, mais pour mourir de sa belle mort le 26. Ce n'est pas une concession à l'idéologie, écrit Victoria de Grazia à la toute fin de son livre. Ce n'est pas une concession à l'idéologie de laisser se passer le passé. Nous ne mettrons pas, comme disent les Italiens, une pierre sur le passé. Si nous nous souvenons d'Attilio Terruzzi, l'homme nouveau de Mussolini, le parfait fasciste, comme d'un anti-héros des temps modernes, et de sa femme juive américaine, Liliana Weinmann Terruzzi, comme d'une héroïne manquée. Explication ?
Oui. Et elle devient une espèce de icône des jeunes de cette culture de diva des jeunes homosexuels à New York. Ça c'est le diva, ça c'est très, alors une espèce d'anachronisme, elle, Même lui, ben, qu'est-ce qu'il était avec tous ses uniformes, avec ce barbeau bizarre, ce stupide. Alors ça, c'est très intéressant, qui à la fin, après on a dit, ben, c'est un anachronisme. Bon, il ne représente vraiment rien. Le fascisme, c'était quelque chose de différent. Mussolini, des autres, les grands hommes, Bottai, cette espèce de technocrate, ou Farinacci, c'était vraiment le mal, hein, antifasciste. Mais Terruzzi représente vraiment un type, typique, c'est un archétype de ce monde-là. Et c'est pour ça que j'ai pu travailler avec lui. C'était, ça a été dur. Tu parles donc de condition, mais pour le rendre un peu comme figure excellente pour étudier le fascisme, le sens du fascisme.
Alors, je voudrais en venir à vous, en fait. Mm-hmm. Vous êtes historienne.
Oui.
Vous avez écrit déjà beaucoup sur le fascisme. Mm-hmm. Mais vous avez d'autres centres d'intérêt, mais qui sont peut-être, ouais. Ouais. qui sont peut-être liés. Mmh. Et ce livre-là, vous l'avez aussi écrit, ou même surtout écrit, dans l'intention de mettre en garde, en fait, d'obtenir une connaissance plus fine. Du
ouais.
fascisme
ouais.
pour pouvoir le reconnaître.
Oui.
Et voir où il est aujourd'hui.
Oui, oui. Je crois que c'est très important se souvenir, comprendre, c'est mieux, qu'est-ce qu'a été le fascisme dans l'histoire mondiale, parce que c'était des phénomènes très très importants au début du XXe siècle. Ça, c'était un ordre qui les Allemands, les Italiens, c'est-à-dire la culture vraiment importante pour l'étude de la jurisprudence, la moralité, Machiavelli, même Nietzsche, c'est-à-dire les philosophes de la moralité politique allemand, italien, et qui ils ont pensé pas seulement les fascistes, les nazis, mais même toute la culture de ces deux pays, de créer un ordre nouveau mondial, parce qu'ils savaient gérer mieux les colonies des autres. Bon, très important. Qu'ils savaient comprenaient mieux que les autres, les Américains, les Russes, les Soviétiques, de comment faire marcher le développement avec les corporations, l'économie coopérative, du planning capitaliste, d'avoir une vraie moralité contre le matérialisme des Soviétiques et des Américains. Il faut se souvenir ça, que dans la crise économique, politique, même culturelle, même des hommes, hein, les hommes à partir de 1914, de la guerre, que ça compte, il faut étudier pour comprendre le monde contemporain. Alors, l'étiquette fasciste, ça ne veut dire rien. Si je dis que mon prof était fasciste, des profs fascistes au lycée, oh bon, mon père même, oh bon, tout le monde était fasciste, la police, tout ça. Il faut comprendre, l'étiquette ne marche pas. Il faut comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, et surtout ce rapport très étrange, différent entre intimité et pouvoir. Parce que le totalitarisme, ce n'est pas la négation de la société civile ou des rapports humains. C'est une réorganisation qui est pleine d'émotions, pleine d'amour, Si on voit Hitler, il est amoureux quand il voit le public qui fait des semble un oncle très très aimé. Même Mussolini, il utilise l'amour.
Si je peux me permettre aussi, oui. Il y a un sens de l'honneur qui est en partie dévoyé.
Oui.
Ils ont l'honneur aussi.
Oui. C'est dans l'idée de gloire, honneur, de honneur spécial, c'est-à-dire de violence. Il dit qu'il y a la violence peut être très très bonne, c'est-à-dire morale. Et il y a aussi la violence stupide et amorale. Bon, et nous faisons la violence morale. Et bon. Et alors c'est très important de comprendre cette espèce de changement dans les mœurs et dans l'idée du pouvoir, d'amour et de moralité. Bon, ça c'est très important.
J'aurais aussi signalé, vous le dites dans le prologue, que dans votre travail, vous prenez un autre point de vue que celui de Hannah Arendt.
Oui.
Pour qui le totalitarisme exclut véritablement toute sentimilité, toute émotion, comme si dans les pays totalitaires, il n'y avait plus de vie, d'émotion, d'intimité.
Non, non, même le nazisme est plein d'émotions. C'est-à-dire, et c'est pas seulement le genre avec Hitler, c'est très important, mais ça, il donne la possibilité de pleurer et de. Pour les massacres aussi, pour la gloire. Et ça, c'est un peu le fascisme, permis un peu cette étrange, bizarre combinaison d'intimité et pouvoir. J'ai toujours étudié le pouvoir, ça c'est sans doute. Mais ça a été avant le pouvoir des institutions, c'est une idée un peu de Gramsci, l'hégémonie, même Foucault avec les micro-pouvoirs, et aussi, je crois, même la sociologie française, Havax sur la consommation, Goblot, barrière niveau, Bourdieu, les distinctions. Alors, c'est les petits pouvoirs pour faire les hiérarchies et pour organiser le pouvoir entre les femmes, les hommes, entre les relations même politiques, entre les hommes, entre les femmes. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai écrit aussi beaucoup sur les questions de genre. Et même, peut-être le projet plus difficile, ambitieux pour moi, a été pour écrire un grand bouquin, réflexion sur le pouvoir soft américain.
Ça a voilà, été... donc vous dites que c'est la grande conquête du XXe siècle, finalement.
L'empire irrésistible, ça a été l'empire irrésistible, ça c'est...
Voilà.
Pas traduit en français, c'est pas tout à fait évident pour traduire, faire des traductions en français, c'est pas tout à fait facile.
Vous, dans votre biographie, là, dans la présentation de l'éditeur, il est signalé que vous avez été une des fondatrices ou la fondatrice d'un courant historique, d'une revue où dans laquelle il y a le mot radical. Histoire radicale. Qui veut dire radical.
Oui. Il faut se souvenir qu'aux États-Unis, il y a toujours eu un problème de trouver les mots pour l'histoire critique. Bon, c'est-à-dire, au moment que le marxisme était très important dans les sciences sociales à partir des années 60, beaucoup influencé par les Européens, par les Anglais, Thompson, Hobsbawm a été très important, même par Foucault, c'est-à-dire Gramsci, il y a eu beaucoup d'influence pour créer une histoire nouvelle, très importante. Mais on savait aussi que le marxisme et les questions féministes, il n'y a pas eu beaucoup de rapports. Et alors, le mot, on a choisi radical. Et ça a été même dans la tradition américaine. Mais on a parlé beaucoup, des débats, même avec études. C'est ça, a été marxiste. Ça permettait plus de concepts, moins de concepts. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement empirique, la théorie et tout ça. Alors, on a parlé beaucoup, on a fait beaucoup pour lancer cette idée et avoir même des liens avec les Européens, avec aussi l'Amérique latine pour commencer. C'était intéressant, c'est un expériment. Ça existe encore, mais c'est beaucoup changé comme, parce que à un certain moment, pendant les années 80, même les autres journaux d'histoire ont commencé à être expérimentés avec l'histoire sociale, l'histoire féministe, l'histoire des hommes maintenant et tout ça. Mais ça a été intéressant même parce qu'il a été fait par nous jeunes et c'était un moment intéressant d'organisation qui vient des années 60 aux États-Unis.
à l'harmonica nul autre que Jean-Jacques Milteau, interprétant de belle façon un air qui nous est assez bien connu. Vous écoutiez sur Radio Libertaire 89.4 Bibliomanie, qui remercie l'historienne Victoria de Grazia de lui avoir accordé cet entretien au sujet de son livre « Un parfait fasciste, amour, pouvoir et morale dans l'Italie de Mussolini » paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme dans une excellente traduction de Anne-Marie de Grazia. À la technique, Xavier Lecomte.
Chanson d'amour, c'est celle que j'écrirai pour toi, lorsque j'aurai compris que je n'aimais que toi, et qu'il s'en est fallu de ça, une larme cachée, un tout petit sourire, qui aurait pu te retenir, pour vivre à jamais près de toi, pour vivre à jamais près de toi.
Était une bonne grosse fille qui avait l'idéal, c'est certain, mais qui n'avait pas l'esprit de famille, qui a laissé ses vieux dans le train. On a dit qu'elle était mystique. D'accord. Mais ça explique pas tout. Elle était anti-britannique. Moi, je dis raciste. Après, c'est tout. Faut apprendre ça dans les collèges. Tout ce qu'on fait ces zigotos-là, moi, je suis loin, perdu dans les neiges. De toute façon, j'y croyais pas. Je faisais juste semblant d'y croire. Comme l'autre avec sa poule au pot, qu'il fallait la manger sans boire. Celui-là, d'ailleurs, a pas eu de peau. Il s'est fait percer la bedaine par un orafe dans un taxi. Comme quoi, tous les rois ont pas de veine. Et c'est historique, ce que je dis. Même que l'assassin, pauvre bonhomme, en a fait quatre petits bouts. Au lieu de gagner à forte somme, c'est rien à apporter. C'est comme une histoire à Robespierre. Un bonhomme que j'ai pas connu. J'irais pas jeter la pierre, mais je tiens pas mon chapeau non plus. Pareil qu'on le craignait, comme la f... Ça tient pas. Sans critiquer. Un monsieur qui se mettait de la poudre. C'est pas de l'histoire, c'est du chiquet. On a dit la révolution. C'est entendu, je vous écoute. Il y avait des bonnes résolutions. C'est le populon qui a fait fausse route. Le peuple est jamais content. Ce qu'il veut, c'est tirer sa flemme. Voyez donc, la guerre de 100 ans, cette guerre. On l'aurait fait nous-mêmes. 15 jours, 3 semaines, c'était fini. Bon, plus d'anglais que de beurre, je pense. Mais là, et il dit pas fourni. Et c'est ça qui nous coule en France. C'est que le populaire est poivreau. Sans rouquin, plus de patriotisme. Les derniers jours du fort de Vaux, sans le pinard, c'était du lyrisme. Et je peux vous dire comme ça pendant des semaines. Et davantage. Napoléon, des gars comme ça. Il n'est pas connu, lui, dommage. J'y aurais dit. Mon bon monsieur m'a dit que vous étiez corse. Or, c'est seul patelin, celui-ci, il n'y a pas de travailleur de force. Et vous bossez 20 heures par jour. Qu'est-ce qu'il aurait pu répondre? Ça prouve bien ce que j'aurais pu dire. L'histoire de France, c'est du chiquet. Vous me direz, Charlemagne. C'est exact. Mais ça prouve rien. Il a laissé en pleine campagne son neveu mourir comme un chien. Un pauvre gars qui joue la trompette, que je n'étais à ce métage. On peut prendre la série complète, si tout, des maniaques ou des fous. Un jour sur deux, ça fait la guerre, tout comme de juste avec nos sous. Heureusement qu'on en a plus. Il nous aurait dépensé petit à petit, jusqu'au dernier. Même plus un rond pour aller les boire. Tant pis si c'est dur à gagner. C'est pas du chiquet, c'est l'histoire.
C'est le même jeu, mais pas les mêmes règles, selon que tu en es ou pas. Je veux dire des atouts, des cartes maîtresses, savoir manipuler tout ça. Tu es la souris, tu es l'aigle.